Oh, je suis dans le pâté ce matin.
Oh, salut. Oh, heureusement que t'as amené le café, hein, parce que là, vraiment, c'est
moi,
dur,
je vais peut-être me faire plutôt un petit thé. Bon, qu'est-ce que... On est où, là ?
Ben, pourquoi tu m'as donné rendez-vous à la chapelle ?
Ah oui, la chapelle. Eh ben, écoute, t'es assez installé, déjà ?
Alors, qu'est-ce que... Oh, dis donc, regarde, il y a des...
Il y a des micros.
C'est vrai, ça va faire un concert, ça.
Ah ouais, sur la petite scène, là, il y a un concert. Ça va être bien, ça. Ça va être sympa.
Ah, et puis au fond, il y a un écran. Enfin, ça ressemble à un écran.
Ouais, il n'y a pas grand-chose sur la grande scène, mais il y a un écran, ouais, effectivement. Il y a des micros aussi, d'ailleurs. Il va se passer... Ah, mais t'as vu, là, il y a des petites affiches aussi. C'est pas mal, ça.
Ah ouais, dis donc, il y a une expo.
Terrorisme industriel, insécurité totale. Ouais, il y a une expo, d'accord. Ok.
Et y a
tiens, t'as pas pris des croissants, là ?
Si, si, tiens.
Ah, ok.
Et il y a plein de tables.
Ouais, c'est bien, on est bien. Ça donne envie de venir s'y poser.
Bon, mais en fait, je comprends pas pourquoi c'est...
Ah, mais attends, mais oui, mais bon, on était là hier déjà. Rappelle-toi, Diane, et avant-hier. Ça fait des jours, quoi. Ça fait une semaine qu'on est sur le pont. C'est la semaine qui fait boum.
Ah, Ville fait...
Ah, mais c'est ça. C'est la grande émission qui commence. Il est 10h17 déjà. Allez.
Le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
10h17, d'émission en direct et en public.
Les gens ont l'air un peu abasourdis.
Pour les 15 ans de l'explosion d'AZF...
Il faudrait une industrie qui soit propre, qui soit sécurisée par l'État, etc. Ça n'existe pas.
Il y a encore du monde à être capable de voir que...
L'usine, c'est la mort.
Que l'État, c'est l'ennemi.
Pas de panique.
On m'a dit, il faut travailler maintenant.
Ne travaillez jamais.
Le droit de tuer, il y aura des morts.
Il est concomitant de la montée du capitalisme.
Sur qui ça va tomber ?
Il y aura des morts.
Sur qui ça va tomber ?
Mais c'est un combat politique, c'est des luttes politiques qu'il faut mener.
Dans notre cœur, fait boum boum boum. On entend que boum boum. Ça fait toujours boum.
Nous sommes en direct de la chapelle, en direct et en public. C'est le début de la grande émission. Il est 10h17 et nous sommes là pour 10h17 d'émission. Donc à peu près jusqu'à 20h34, si on n'a pas de retard ce soir. Toute la journée, vous pouvez donc nous rejoindre, si vous êtes toulousain, au 36 rue Daniel Casanova à la chapelle. Voilà, il y a évidemment des tables pour vous recevoir. Le bar est ouvert, il y aura à manger. Il y a aussi des tables dans le jardin avec des petits points écoute. Enfin voilà. Donc on vous attend. Et puis pour les non-toulousains ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est toute la journée sur Canal Sud 92.2 FM. Et ça, c'est pour les Toulousains. Et partout dans le monde, on peut nous entendre sur canalsud.net, le site web. Salut Diane.
Et bonjour à tous et à toutes.
Le café a fait son effet, ça y est. Nous émergeons.
Bon. Donc, ça n'est pas la première initiative de la semaine. Hein.
Non, c'est la grande émission de la semaine, mais la semaine, elle a commencé lundi. Lundi 19, elle se poursuivra jusqu'à lundi prochain inclus, donc le 26. Toute la semaine, il y avait des diffusions d'émissions hein, sur l'antenne de Canal Sud. Pas mal de rediffusions, pas mal de choses en direct aussi. Tu peux nous en parler, Diane, notamment d'une grosse journée qu'on a déjà fait mercredi.
Alors mercredi, en fait, ben, c'était le 21 septembre. Le 21 septembre, quand on est de Toulouse et qu'on entend votre ville fait boum, ça rappelle AZF, c'est-à-dire 2001. Et du coup, on s'est lancé sur 6 heures d'émission et on a appelé à faire un micro ouvert sur des témoignages. Et puis, on a parlé aussi de la lutte pour la fermeture du site chimique. Et puis,
qui a suivi l'explosion en 2001-2002.
Voilà. Et puis, sur les procès. Donc, un petit bout du retour sur les témoignages.
Patricia, tu me racontais là tout à l'heure ton histoire. Donc, tu travailles dans une école, tu es dans les quartiers sud. Tu files un coup de main aux gens. Tu t'aperçois que en fait, c'est toute la ville qui a été touchée. Donc, tu vas chercher tes enfants. La petite à la crèche, ça va. Le petit, lui, s'est retrouvé dans une école qui avait été redessinée en Z, hein, qui est pas très loin de la tour d'AZF. Mais également, ça ne s'arrête pas là parce que tu vas rentrer chez toi et en fait, tu n'as plus de chez toi.
Oui, alors...
En résumé.
Je suis rentrée chez moi dans l'après-midi parce que La priorité première, en fait, devant la panique, c'était de se retrouver avec, avec des gens dans un endroit où on était en sécurité. Et donc, dans ma tête, c'était mon école où on était en sécurité. Donc, on s'est retrouvés là-bas une partie de la journée. Mais je suis rentrée l'après-midi. Donc, c'était bagatelle et c'était complètement surréaliste. D'abord, il y avait cette fameuse couleur rouge, là, dont on parlait partout, qui avait redessiné complètement tout le quartier. C'était très étrange. Il n'y avait plus aucune fenêtre, alors c'est compliqué d'imaginer un bâtiment, enfin c'est un quartier de HLM où il n'y a plus de fenêtres et où toutes les fenêtres sont par terre, parce que ça, je ne sais pas expliquer, mais ça avait pété vers l'extérieur, c'est-à-dire que le verre est rentré, mais les montants de fenêtres, eux, sont descendus sur le trottoir, donc il y avait tout cet amas de bois et de ferraille sur le trottoir, et des gens installés partout, alors avec des grandes plaines, hein, très très zen les gens du quartier. C'est comme ça, on est dehors, il fait beau, il faisait très beau ce jour-là, donc installé sur des plaines avec les mômes qui jouent partout autour. Voilà, moi j'habite pas un HLM, j'habite une vieille maison dans un quartier qu'on appelle le quartier Castor, là, des maisons qui datent des années 50, donc où la structure a très bien tenu, contrairement à certains immeubles, mais où par contre, effectivement, bon, les fenêtres étaient plus là, et surtout c'était très étrange, parce qu'à l'intérieur de la maison, tout avait reculé d'un centimètre. Donc c'est très impressionnant de rentrer chez soi et de ne pas pouvoir ouvrir la porte, par exemple, parce que le meuble s'est décalé et bloque la porte. Parce que voilà.
Heureusement que tu pouvais passer par la fenêtre.
C'était très pratique. Donc voilà, et puis... J'ai ces souvenirs de verre partout, quoi. C'est-à-dire que il y a le coup de rentrer, de se rendre compte que la maison est toujours là, ça c'est rassurant, de se rendre compte que les fenêtres sont cassées, c'est un peu ennuyeux, mais on se dit finalement c'est que du verre. Et puis en fait on se rend compte que pas du tout, parce que le verre il est partout, c'est-à-dire qu'on peut plus dormir dans les couettes, on peut plus, on a bazardé tous les doudous des enfants, les choses comme ça, c'était rattrapable. Il y a du verre partout, incrusté dans les murs. Bon, c'est juste inhabitable, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de partir, quoi. J'ai appelé mes parents, j'ai envoyé les enfants sur la côte atlantique vivre leur vie pendant une semaine, le temps qu'on puisse s'organiser un peu pour avoir un endroit qui est vivable. Il y a des gens dans le quartier qui ont campé dehors tout le week-end, avec des tentes de fortune, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les appartements.
Ce que tu disais, Claude, c'est qu'en fait, ce qui aurait été bon, c'était de partir, sauf que tout le monde avait quelque chose à faire, quoi. Le temps de s'apercevoir que ça avait pété dans toute la ville, il fallait prendre des nouvelles d'un proche, aller chercher des enfants, ou aller voir des gens, et en fait, même si tu as envie de partir, de quitter la ville immédiatement, parce que tu sens que quand même, il y a cette espèce de nuage jaune orangé là, qui plane au-dessus, tu ne vas pas forcément le faire, parce que tu as plein de choses à régler, et il y a tellement d'obstacles dans la ville qui font que au final tu pars pas, c'est ça, non?
Et puis il y a l'autre truc, hein, c'est que tu pars pas aussi pour des conditions matérielles, c'est à dire que ton chez toi est complètement ouvert, ça veut dire n'importe qui passe dans la rue peut rentrer chez toi, comme tu dis, par la fenêtre hyper facilement, et que toutes les affaires elles sont dedans, que t'as pas d'endroit où les mettre, et que bah, tu restes quand même avec tes affaires près de ce qui est ta vie privée, même si du coup c'est public, parce que tout le monde a accès.
Alors c'était un témoignage parmi à peu près une vingtaine de personnes qui sont venues, parce que ben, c'est important aussi de se remémorer un petit peu, aussi également pour les personnes qui n'étaient pas présentes à ce moment-là dans Toulouse.
Et il y en a beaucoup.
Entre ceux qui sont arrivés et les gamins qui ont grandi. Ce qui m'a frappé dans les témoignages, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont du mal à sortir, ça a été un tel choc, que ça a été difficile de sortir. Encore beaucoup de gens, évidemment, d'un point de vue physique, des soucis auditifs, des choses de cet ordre, des soucis de santé. Beaucoup de personnes encore sous tranquillisants. Et du coup, on est passé après sur la lutte pour la fermeture du site. C'est une lutte qui a été un gros contre-pouvoir sur la ville, avec une organisation qui s'est mise plus ou moins spontanément, mais qui s'est structurée et qui s'est appelée Plus Jamais Ça, ni ici ni ailleurs, car il n'était pas question de renvoyer chez les voisins toutes nos merdes chimiques. Donc on va passer un petit bout de cette partie, qui, je vous rappelle, c'était mercredi.
On en 2003, on allait encore devant les SNPE, enfin, je parle des riverains de la Croix-de-Pierre, on est allé à la SNPE pour dire fermer tout ça, quoi. Et ça c'était pas très apprécié non plus de la police qu'on aille là-bas parce qu'ils risquaient, ils pensaient qu'ils risquaient qu'il y ait des heures, ce qui était faux, parce que là-bas, ils bougeaient pas. Donc, ça a mis quand même un petit peu de temps avant de partir. C'est, quand il y a eu l'annonce du procès, que ça a vraiment. Il y a eu un engouffrement là-dedans, et peut-être que ça a aussi fermé un certain nombre de. Enfin, fermé, en tout cas, minimisé un certain nombre de revendications. Mais parce que, bon, on a fait comme les organisations, comme disait Dominique, bon, on choisit un peu vers où on va. Mais c'est pas immédiat, quoi. C'est pas dans l'année qui a suivi, ni dans les deux ans, c'est plus tard.
Et là, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec la façon dont Pascal décrit la fin du grand collectif, plus jamais ça, et le fait qu'il y ait les assos comme Croix de Pierre, ou les sinistrés du 21 qui ont continué à mener le procès, ou les familles endeuillées, avec Gérard Ratier qui a fait un boulot énorme au plan juridique. Et là-dessus, on avait dans le dossier d'instruction, donc dans le dossier mené par l'État, par là, énormément d'informations sur la nature réelle du fonctionnement du site, où on n'a pas besoin d'être chimiste pour savoir que ça ne pouvait que péter. La seule inconnue, c'était quand.
Le droit de tuer,
il y aura des morts.
Il est concomitant de la montée du capitalisme.
Sur qui ça va tomber,
qui
ça
va tomber. Il y aura des morts.
Sur qui ça va tomber.
Alors, c'était toujours un bout de mercredi dernier, mercredi où on est revenu sur 2001 et 2002 à ZF. Je vous rappelle, pour ceux qui prennent l'antenne, que nous sommes partis sur 10h17 de radio. Nous sommes à la chapelle. Venez nous voir, c'est convivial.
36 rue Daniel Casanova.
Nous continuons sur le remake de la journée de mercredi avec la partie procès, parce qu'effectivement, après, des années après, se sont lancés les procès. Alors, un petit bout.
Canal Sud 92.2 MHz, toujours sur AZF, sur l'explosion de l'usine en 2001. On en était donc au volet judiciaire, au procès. Avec le 24 septembre 2012, ce verdict en appel du deuxième procès en correctionnel de l'explosion d'AZF qui infirme le jugement de relax donné en 2009. Et avec la cour d'appel de Toulouse qui condamne l'ancien directeur de l'usine donc à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et pour homicide involontaire et une amende de 45 000 €. Et la société, non pas Total, mais la société Grande Paroisse, qui elle a été condamnée à payer une amende de 225 000 €. C'est une subtilité
C'est plus qu'une subtilité. Hein. C'est que Total, c'est le propriétaire de Atochimie qui tient Grande Paroisse. C'est-à-dire qu'en fait, AZF est arrivé dans le giron de Total par des intermédiaires de regroupement, de sociétés, etc. etc. C'est pas franchement d'ailleurs son activité principale. Hein. C'est plutôt un pétrolier, Total. Donc la chimie, et d'ailleurs, ça peut expliquer pas mal de choses sur la fermeture, sur la volonté de Total de fermer l'usine à un moment ou deux. Bon, en tous les cas, c'est Grande Paroisse qui est au tribunal et c'est Grande Paroisse qui est condamnée. Et à un moment, il y a une initiative associative qui dit, c'est pas possible qu'il n'y ait que Grande Paroisse qui soit au tribunal. Les propriétaires de Grande Paroisse, c'est Total, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont des ordres, qui donnent des ordres. Et il faut faire quelque chose. Alors, on ne va pas expliquer juridiquement les aléas de toutes ces choses-là, mais en tous les cas, ça va quand même amener Thierry Desmarais, qui était le PDG de Total à l'époque des faits, à l'époque de l'explosion, à venir au tribunal, à tenir un langage de PDG de Total. Ça, c'est assez. On avait écrit un article à l'époque, parlez-vous de Desmarais sans peine. C'est une technique. Hein. Ils apprennent ça. Ils sont d'une imperméabilité émotionnelle et d'un langage, d'une technocratie dans le langage qui est assez impressionnante. Mais en tous les cas, à venir là et à risquer effectivement de se faire condamner au-dessus de Grande Paroisse, en quelque sorte. Pas Desmarais lui-même, parce que ça a été assez vite, il était assez vite clair qu'il n'y aurait pas la condamnation du PDG Total, mais la société pouvait effectivement être condamnée.
D'accord.
Total assassin, etc. Il n'y a jamais une réelle mise en compte de l'État. AZF a été construit comme une usine d'armement par le gouvernement français en 1924. C'est une usine qui a continué à fabriquer en conscience des armes, à produire les trucs qu'ils envoyaient à la SNPE. la SNPE est une structure de l'État. Je veux dire, l'État utilise clairement cette usine pour fabriquer des armes. Et je veux dire, elle est pas, ils ne sont pas mis en cause sur le fond là-dessus. Il n'y a aucun, à aucun moment donné, quand vous les attaquez administratifs, vous ne les attaquez pas sur le fait que ce sont des gens qui font des guerres, qui fabriquent des armes et tout ça. Pour moi, ce procès... Oui, non, mais bon, je m'exprime là-dessus. Ce procès, pour moi, il n'a aucune valeur d'être. C'est-à-dire qu'en en ayant explosé, je ne vois pas réellement les coupables mis en cause.
Et oui, c'était AZF, l'usine qui pue, qui pète et qui prend les gens pour des trompettes. Donc, on a bouclé la journée un petit peu là-dessus. C'était aussi une manière de revenir et de lancer sur quelque chose de plus large pour le reste de la semaine. Donc, on reviendra plus en détail tout à l'heure sur la journée d'aujourd'hui, mais alors, il y aura des suites.
Oui, alors quand même, on peut préciser sur le volet procès, hein, pour terminer, que ce n'est pas terminé, hein, les procès AZF. Le prochain procès, c'est en janvier à Paris.
Le 24 janvier, c'est prévu à Paris, donc on en est à la cassation. Compliquer les histoires de procès, parce qu'il y a eu des procès contre AZF, et puis il y a eu quelque chose autour de l'État, mais qui a avorté, c'est-à-dire le tribunal administratif a refusé. Mais enfin bon, c'est très compliqué. Mais vous savez que sur le site de Canal Sud, vous pouvez podcaster, c'est-à-dire écouter après coup toutes
l'intégralité de l'émission, des émissions de la semaine et des émissions de mercredi. Donc tu l'as dit, AZF, mercredi, on a consacré, c'était la date anniversaire vraiment de l'explosion, on a consacré 5 heures, même 6 heures, c'est ça ? 6 heures de direct depuis le studio de Canal Sud à la question vraiment centrale de cet accident du 21 septembre 2001, il y a 15 ans. Voilà. Mais toute la semaine, on a ouvert, AZF, c'était un point de départ, on a ouvert sur l'industrie et sur le monde qui va avec, qui est hélas notre monde en grande partie, et notamment des rediffusions, des Le Front du lundi, lu et approuvé, enfin voilà, plusieurs émissions de Canal Sud qui ont été consacrées au sujet, largement. Ça continuera après la journée d'aujourd'hui. Le dernier jour, ce sera lundi. Lundi 26 septembre, ça commencera dès 9h avec la rediffusion d'une émission consacrée aux drones et aux robots de guerre, la guerre industrielle à l'heure de l'électronique. Le titre, c'est « Drones de guerre ». Voilà. À 10h17, il y aura la dernière vignette revenant sur des catastrophes industrielles. Toute la semaine, à 10h17, on avait des petits retours comme ça sur des catastrophes industrielles marquantes. Ce sera à 10h17 consacré à des catastrophes industrielles, mais un petit peu quand même particulières, même très particulières et tout à fait hors normes. Ce sera les catastrophes nucléaires. Voilà. Et à 12h30, la semaine clôturera avec le front du lundi. Alors là, c'est pas une rediffusion, c'est le front du lundi habituel, hein, tous les lundis de 12h30 à 14h. Ce sera consacré à la production et aux ventes d'armes. Donc un point sur la question avec Patrick Bouvray, qui est membre de l'Observatoire des armements, basé à Lyon. Voilà, donc ça, c'est lundi prochain.
Mais aujourd'hui, donc nous sommes partis pour 10h17 d'émission.
10h17 d'émission, donc ça nous amène jusqu'à quelle heure, Diane? Ça, 20h34, quelque chose comme ça? Si on ne dépasse pas.
Si, on ne dépasse pas, parce que c'est toujours difficile de conclure. Mais en fait...
Oui. Alors pourquoi ce marathon radio? C'est ça la question. Qu'est-ce qui nous a pris de faire 10 heures, de se lancer dans 10 heures d'antenne non-stop comme ça?
Alors déjà, ce n'était pas la première fois, puisque l'an dernier, et on y reviendra tout à l'heure, il y a eu 17 heures d'émission contre les violences de l'État. Mais à quoi
alors,
ça sert?
Alors 17 heures de radio, mais 6 heures de direct, je crois. Donc il y avait... Voilà. Et c'était déjà à la chapelle, c'était l'an dernier. On a Nico avec nous qui peut nous en parler.
Oui.
Oui, alors c'est pas ce qui était prévu. On devait balancer un petit son là. Qu'est-ce qu'on passait?
Non. Qu'est-ce qui peut nous pousser à faire ça?
Moi, en fait, j'ai pas de vie. En fait, personne fait attention à moi. Alors, du coup, je fais de la radio.
Alors, ça occupe l'espace de vie.
L'année dernière, on avait envie de faire un événement, faire de la radio et que ça rassemble du monde. Du coup, c'était un an après l'assassinat de Rémi Fraisse. Et du coup, on avait choisi la question des violences d'État, quoi. Et on s'était dit, bon, on peut traiter ça de plein de manières différentes, mais faire un événement public, faire de la radio en public, si possible rediffusée un peu partout, et que ça puisse ramener du monde, que ça puisse pas simplement écouter de manière isolée, chacun chacune derrière un poste, mais que les gens puissent venir rencontrer, que ça puisse faire un moment où cette production de pensée, cette réflexion qu'est une émission de radio, et ben on puisse la faire à plein, etc., et que ça fasse aussi comme un truc un peu démesuré, parce que par exemple les violences d'État, on trouvait que c'était démesuré, les violences d'État, et du coup 17 heures contre les violences d'État, c'est de dire de toute façon c'est démesuré quoi, faut faire des trucs démesurés contre un truc démesuré. Et puis voilà quoi.
Alors c'était 17 heures parce que c'était le 17 octobre 2015 et donc c'était en rapport évidemment avec le 17 octobre 1961, le massacre des Algériennes et des Algériens à Paris. Bon, oui c'est vrai, ça crée de la convivialité, c'est vrai que d'être à la Chapelle ça permet aussi d'accueillir plus de monde qu'au studio de Canal Sud, il y a une ouverture comme ça. Ça permet de créer aussi de quelque chose de plus collectif. Bon, il y a aussi le plaisir, je pense, Diane, tu es d'accord avec ça, le plaisir de se lancer un peu dans des défis comme ça, des choses un petit peu compliquées.
Il me semble aussi que c'est le moyen d'approfondir un sujet. C'est-à-dire que quand on prend un sujet et qu'on décide d'y passer 10 heures comme aujourd'hui ou 17 heures comme la dernière fois, c'est aussi une manière de porter un regard fort et puis de collectiviser, comme tu disais. Mais il y a aussi le côté challenge. Parce que vous ne nous voyez pas, mais on est certains quand même avec des grosses cernes, mais contents de aussi se dépasser et d'avoir préparé tout ça. Et puis, ça permet aussi, ces marathons, de mixer avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y aura des concerts en même temps. Il va y avoir des projections, il va y avoir du son qui ne se passe pas en public. Mais revenons sur l'an dernier.
Alors, l'an dernier, ouais, les 17 heures contre les violences d'État du 17 octobre... 2015, pardon. J'étais encore resté sur 1961. Donc, comment ça s'était passé? Vous avez un petit retour à nous faire là sur ce...
Y avait aussi l'idée d'aller faire le point, d'aller nous chercher dans des contenus radio qui avaient été faits peut-être par d'autres, sur d'autres époques, des choses qui revenaient. Donc, on avait, comme tu l'as rappelé, on avait fait quelques heures de direct, mais pas que. On était aussi parti pour enregistrer des choses. On s'était, par exemple, amusé, fermer les guillemets. On avait fait la liste un petit peu exhaustive. On tendait vers l'exhaustivité, la liste des gens qui avaient été tués par la police depuis, je crois que les plus anciens cas qu'on avait racontés dataient des années 70. Et on avait essayé d'aller chercher un petit peu ces gens-là. Quelle était leur identité? Comment ils étaient morts? Était en France. Qu'est-ce qui était arrivé suite à ça pour les quelques cas dont on savait ce qui était arrivé aux flics qui les avaient tués? Évidemment, on ne savait pas grand-chose de leur vie d'avant. C'était des noms un peu, mais au moins, c'était une manière d'allumer comme une petite bougie. Rico l'avait rappelé. Rémi Fraisse était mort depuis un an. Timothée Lec, un jeune braqueur aussi, avait été tué par la BAC quelques jours avant. Donc, on avait envie de mettre des noms sur des choses. On avait envie de revenir. Il y avait, par exemple, des copains qui faisaient de la radio à Paris, qui avaient fait une émission sur les concerts Rock Against Police, RAP, qui, dans les années 70, début des années 80, étaient là pour célébrer à leur manière quand il y avait un crime policier. Les gens s'organisaient pour récolter des thunes, pour se retrouver, pour discuter aussi de comment faire face aux violences policières. Et donc, c'était pour nous l'occasion de mettre des noms sur des histoires, de raconter des histoires et de sortir aussi de prendre des contacts avec des gens qui faisaient de la radio ailleurs.
Et du coup aussi faire comme on fait cette année, c'est-à-dire de partir de là. C'est-à-dire si on dit violence d'État, souvent les gens disent violence policière. On a insisté pour dire violence d'État parce que ces violences d'État elles sont multiples. C'est aussi les contrôles, c'est aussi comment est-ce qu'on nous met au travail, c'est aussi comment est-ce qu'on nous parque à certains endroits dans la ville, comment est-ce qu'on nous oblige à habiter d'une certaine façon, ou même des fois on se demande si on habite quelque part ou si simplement on y dort. C'est aussi comment est-ce qu'on puce les bêtes, c'est aussi comment est-ce qu'on contrôle les gosses, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait des fichiers, comment est-ce qu'on nous fait vivre à côté de centrales nucléaires, etc. Donc c'était toujours aussi ce truc-là d'essayer de faire en sorte, où on avait constaté aussi autour des manifestations contre la mort de Rémi Fraisse qu'il y avait une fixette sur la police et on oubliait de quoi était de qui était ce bras armé quoi. Ce bras armé, qui est derrière le bras quoi. Qu'est-ce qui est derrière le bras? Quel est l'ordre que défend ce bras armé? Et c'est un peu tout naturellement qu'on est venu derrière à des histoires aussi d'industrie. Mais ça, peut-être on le développera quoi. Mais c'est toujours cette même idée de partir de quelque chose qui marque, hein, par exemple des crimes policiers, et d'aller plus loin.
Oui, il y a un lien évident du coup avec la journée d'aujourd'hui. Et de la même manière, aujourd'hui, donc, on part d'AZF, de cet accident dégueulasse et tragique de 2001, pour aller ouvrir sur des thèmes plus larges. On pourrait se rediffuser, du coup, tu en as parlé, Nico. Donc, l'an dernier, toute la journée était ponctuée par un listing de victimes, de morts par la police en France. Et ça donnait ceci.
La nuit du 5 au 6 mars 2015, Paris. Amadou Koumé, 33 ans. Mort au commissariat du 10e arrondissement. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour rechercher les causes de la mort, avant de requalifier très rapidement les faits en homicide involontaire.
Karim, 26 ans, avril 2015, Le Havre. Fauché par un train alors qu'il fuyait un contrôle d'identité. Karim ne voulait pas retourner en prison.
254, Pierre Caillet, avril 2015, Saint-Denis. Tué dans un commissariat.
Pierre-Éliott Ziguem, 18 ans, mai 2015, à Tourcoing. Décédé à la suite d'une course-poursuite avec la police.
Il était une fois un ordre social, comme ça a été dit, le 17 octobre. Donc on avait passé ces sons-là, on en avait passé d'autres. C'était notre manière à nous de célébrer les crimes d'octobre 61. 17 heures de direct, 17 heures contre les violences d'État. On était déjà là, on était déjà retransmis dans la chapelle d'ailleurs.
Je crois que t'étais là, hein. T'étais là aussi, on retrouve un peu les mêmes têtes. Un marathon radiophonique, on a expliqué pourquoi on fait ça, marathon en direct, marathon en public, pour évoquer une action ordinaire de la police et de la justice, bien sûr, mais aussi, et ça aussi on l'a rappelé, mais aussi pour évoquer la violence des diverses administrations contre des personnes étrangères, prostituées ou précaires. 17 heures d'émission pour tout ça, c'était pas du luxe, ça avait été long, et on aurait pu se dire que 315 jours d'état d'urgence plus tard, on aurait pu remettre le couvert, remettre à jour cette liste dont on vient d'entendre un extrait, hein, la triste et longue liste des morts de la police, puisque le même ordre social produisant les mêmes effets, cette liste s'est malheureusement encore allongée de quelques noms. J'ai envie d'en citer un, Adama Traoré, mort le 19 juillet dernier, là, il y a quelques semaines maintenant, après une tentative d'interpellation. Pourquoi le citer lui parmi d'autres ? C'est que malgré les mensonges du procureur et les habituelles zones d'ombre, hein, malgré les autopsies bidonnées, il y en a eu plusieurs, malgré les faux témoignages de la police, la famille et les proches ont réussi un petit peu, cette fois-ci, à fissurer le mur du silence, un petit peu plus que d'autres fois. Alors évidemment, comme d'habitude, ceux qui ont le sang d'Adama Traoré sur les mains courent toujours, contrôlent d'autres identités dans le même quartier, un uniforme sur les épaules, un flingue à la ceinture et un permis de tuer en tête. Il y a bien quelqu'un qui a été inquiété dans cette affaire. Mais c'est un autre jeune de la même ville qui, lui, est soupçonné d'avoir tiré des coups de feu pendant les nuits de révolte qui ont suivi la mort d'Adama Traoré. Alors lui n'a blessé personne, mais il a été arrêté début septembre, mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Et comme une sorte de triste écho carcéral, pendant ce temps-là, on entend des gens qui nous énoncent un énième plan de construction de prison, 10 000 nouvelles places cette fois-ci, pour toujours plus de personnes en cage. Comme disait le poète, le soleil brille, mais pas pour tout le monde. Pour autant, cet ordre social ne se contente pas de tuer et de mutiler et d'enfermer. Figurez-vous qu'il voudrait en plus nous faire avaler n'importe quoi. Alors qui ça ? Il, hein ? Des marchands de canons, des marchands de chimie, des marchands de béton, qui, 100 ans après la boucherie industrielle de Verdun, 40 ans après la catastrophe industrielle de Seveso, voudraient nous dire « la vente d'armes, c'est de la croissance, et la chimie, c'est l'abondance ». Alors le fin de l'histoire rimera bien évidemment en euros et dollars, car de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a où ça ? Cherchez. Du béton au nitrate, des armes à loyer modéré, des céréales de destruction massive, tout et n'importe quoi, si ça s'achète, ils en vendront. Le fric, le pèse, le pognon et la maille, c'est que le blé reste le nerf de la guerre. Alors cet ordre social, tu l'aimes ou tu le quittes, et c'est bien ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est notre manière à nous de célébrer les 15 ans de l'explosion de l'usine chimique d'AZF. On fait la fête à l'industrie sur Canal Sud et sur les radios qui nous retransmettent. La guerre, industrielle ou pas d'ailleurs, et comment on y résiste, ce que l'industrie fait au travail agricole et comment des paysans et des paysannes essaient d'y échapper, ce que l'armée des urbanistes et des architectes fait à nos villes, mais qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces aménageurs ? On a 10h17 de radio en direct pour y réfléchir avec toi, toi et toi, j'ai envie de dire à nous les studios, et donc on a un beau programme à vous annoncer pour aujourd'hui.
Alors Alors de la même manière que merci Nico. Alors de la même manière que l'an dernier, la journée était ponctuée par ces listes de morts par la police. Aujourd'hui, toute la journée, on va vous égrener un certain nombre de catastrophes industrielles, un certain nombre seulement, parce qu'une liste exhaustive est totalement impossible. Et donc voilà, toute la journée comme ça, des petits retours. Quel pays, combien de victimes, une espèce de constat froid mais nécessaire sur la réalité du nombre de catastrophes et de tués par l'industrie.
1er juin 1974. Flixborough, Grande-Bretagne, industrie chimique. L'explosion de 50 tonnes de cyclohexane dans une usine chimique fait 28 morts et 36 blessés graves.
27 décembre 1974, Liévien, France, industrie minière. Un coup de grisou dans une fosse de la compagnie des mines de Lens fait 42 victimes.
7 juin 1975, Singapour, République de Singapour, industrie pétrolière. Après l'échouage du Showa Maru, 273 000 tonnes de pétrole se répandent dans le détroit de Malacca.
13 avril 1976, Lapua, Finlande, industrie militaire. Une explosion dans une usine de munitions tue 40 travailleurs et travailleuses.
12 mai 1976, baie de la Corogne, Espagne, industrie pétrolière. L'explosion du pétrolier Urquiola répand en mer 100 000 tonnes de carburant.
Voilà, on retrouvera tout à l'heure d'autres catastrophes industrielles. Alors, on est toujours à La Chapelle, on est toujours au 36 rue Daniel Casanova, on y est pour un moment, on y est jusqu'à ce soir. Vous pouvez nous rejoindre toute la journée. Donc on part d'AZF, Diane, on part d'AZF, mais c'est pour ouvrir, comme on l'a dit, sur l'industrie en général et sur le monde que construit l'industrie.
Alors, pourquoi en fait ? Parce que AZF et une grande partie de la chimie toulousaine, eh bien, ça a servi et ça continue à la fois à l'agriculture pour les engrais, hein, c'est ce qu'ils affichaient, mais aussi à l'armement, dans la mesure où les ammonitrates, eh bien, ça fait des bombes et des engrais. C'est pour ça qu'on a ouvert à la fois sur l'agriculture et aussi sur l'industrie et d'armement, puisqu'on le verra dans la journée. Nous sommes une ville très productrice d'armement, mais ça a fait d'autres effets sur Toulouse, hein, comme sur les autres villes. Toutes ces industries, eh bien, ça a modifié l'urbanisme. Pourquoi ça a modifié l'urbanisme ? Au-delà de l'explosion, hein, qui a permis un remaniement qui était programmé, au tout début, quand les usines sont construites, eh bien, se sont construits aussi des logements pour les ouvriers. Et puis après, alors ça, c'est carrément les usines qui en construisaient, comme certains quartiers, Papus, Tabar, mais aussi des grands ensembles pour mettre eh bien, tous ces travailleurs. Et en partie des travailleurs immigrés, en particulier dans les années 60.
Voilà, donc là, du coup, tu nous as donné un peu les trois thèmes qui vont marquer cette journée. Industrie et agriculture, industrie et guerre, ou industrie et armement, si on veut le dire plus gentiment, et industrie et urbanisme. Alors, il y a quand même, évidemment, d'autres thèmes, forcément, qui vont être abordés, et notamment, il y a deux thèmes qui vont vraiment être transversaux tout au long de ces 10h17 d'émission. C'est le travail, parce qu'évidemment, dans les usines, il y a des ouvrières, il y a des ouvriers, il y a des prolos. Et puis, c'est la lutte, parce qu'évidemment, il y a les luttes au sein de l'usine, il y a les luttes à l'extérieur de l'usine, il y a les luttes par rapport à, forcément, les résistances qui se créent par rapport au monde qui essaye de nous imposer l'industrie. Sur le travail, toute la journée, de la même manière qu'on va égrener les catastrophes industrielles, toute la journée, on va retrouver des petites chroniques de travailleuses et de travailleurs à l'usine. Et on va écouter du coup la première de la journée qui s'appelle Allumer le feu, première chronique du travail à l'usine.
Chronique d'une agonie résignée.
Allumer le feu. L'équipe du matin remplit peu à peu le parking des ouvrières. Les traits sont tirés, il est 4h30. Les plus ponctuels croisent l'équipe de nuit dont la pâleur marque la fatigue accumulée. C'est l'heure de la dernière clope avant d'entrer. Les plus organisés sont déjà changés, chaussures de sécurité, blouses et bouchons à proximité. Certains courent chercher leur dernier café. D'autres arrivent à peine, ils ont dû laisser le réveil sonner. Devant la porte des vestiaires, la troupe main se massifie, les voix portent et le temps monte. Cette nuit, un plafond de la fonderie a flambé. Une braise de métaux en fusion s'est envolée et en moins de temps que pour s'en rendre compte, tout s'est enflammé. Les pompiers sont encore là. Les plus réveillés ont remarqué de loin cette fumée inconnue. Les autres découvrent hébétés ce risque qu'ils n'imaginaient pas. Personne n'est blessé cette fois, mais on n'est pas passé loin. Des frissons parcourent l'assemblée. Les plus anciens ouvrent les archives de l'indicible, des incidents passés, des morts, des accidentés. Les recrues plus récentes fantasment l'arrêt de la chaîne, la journée libérée. Les syndicalistes questionnent les normes de sécurité, tandis que la direction pleure les travaux à venir et le manque à gagner. C'est l'heure. Tout le monde devrait déjà être à son poste. La chef d'équipe vient récupérer les troupes. Ceux du hangar concerné seront replacés pour la matinée. Les autres doivent reprendre comme si de rien n'était. Comme si dans l'aube sombre et glacée ne tournoyaient pas les gyrophares des pompiers. Comme si cette odeur de tôle incandescente n'emplissait pas un peu plus nos poumons déjà saturés. Comme si les flaques d'huile ordinaires n'étaient pas accentuées par l'eau qui ruisselle du hangar défiguré. Les pieds dans cette boue, finalement, on s'y habituait. Le courant général ne sera remis qu'après midi, mais celui qui alimente les précieuses machines n'attend pas. Heureusement qu'elles ont pour la plupart leur système de lumière intégré, sinon c'est dans le noir complet qu'il faudrait travailler. Magnésium must go on, le temps c'est de l'alu.
Voilà, c'était la première chronique de travailleuses et de travailleurs. Il y en aura d'autres tout au long de cette journée du 24 septembre, émission en direct, en public de la Chapelle. Eh bien, il est temps de vous donner le programme un peu détaillé de cette journée. Tout à l'heure, là, d'ici quelques minutes, on aura le premier jeu. Toute la journée, il y aura des jeux, des questions. Donc évidemment, pas la peine d'appeler, hein, pas la peine de téléphoner. On n'a pas le téléphone, il faudra venir jouer en direct à la Chapelle. Et puis après, on enchaînera avec le premier des plateaux, des 6 plateaux de la journée. Donc, pour aborder déjà l'industrie et l'agriculture. Hein, je vous rappelle, industrie et agriculture, industrie et guerre, industrie et urbanisme. Ce sera les trois grands sujets de l'émission. Et on sera avec des paysans, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de paysannes, des paysans d'Ariège. Et on parlera de ce que l'industrie fait au travail agricole. Ça, ce sera sur les coups de 11h15.
Alors, à midi... Écart, nous nous lançons dans le premier débat mouvant.
Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est un débat mouvant, Diane ?
Eh bien, un débat mouvant, c'est un débat qui bouge. Ça veut dire que c'est un débat dans lequel on débat peu, mais on bouge beaucoup. Est-ce que c'est radiophonique ? Mais bien sûr, puisqu'il s'agit de se positionner par rapport à une affirmation assez clé. Mais je vous incite à venir à la Chapelle, de manière à pouvoir participer avec nous à ce débat mouvant, qui va être d'ailleurs animé par Marie et par Diane.
Et par Diane, la deuxième Diane, une autre Diane est possible.
Oui, la deuxième, hein, parce que moi je suis la vieille. Hein.
Donc Diane et Marie qui sont de la SCOP d'éducation populaire Vent Debout.
Là-dessus, nous aurons un petit concert.
Ah, premier concert. Alors, c'est quoi ?
Alors, c'est Mimichel.
Mimichel, c'est de la chanson, on va dire, c'est de la chanson engagée, pour utiliser une formule un peu éculée. C'est très chouette. Ça, ce sera le premier concert de la journée. À 13h20, deuxième plateau, industrie et guerre. Et on parlera plus spécifiquement de Toulouse, de l'armement à Toulouse. Tu l'as dit tout à l'heure, Toulouse, c'est quand même une plate forte de l'industrie de l'armement, de l'industrie de guerre en France. Et donc, ce sera le sujet de ce plateau de 13h20 autour de l'ouvrage, notamment Toulouse Nécropole, que vous pouvez trouver ici. Hein. Alors oui, tiens, on peut ouvrir une rapide parenthèse. Il y aura, à partir de dans quelques minutes, là, le kiosque et d'autres qui viendront poser une table de presse, des brochures, des livres à votre disposition, et notamment cet ouvrage Toulouse Nécropole, qui est donc... consacré hein, à l'industrie de guerre à Toulouse.
Qui fait une rétrospective de l'ensemble de l'industrie, parce que ce qu'il y a de spécifique, hein, c'est que maintenant, on n'est plus dans une grosse industrie, on est dans une industrie assez éparpillée, avec plein de petites boîtes qui bossent, chacune, pour des choses tellement parcellaires que même les gens qui y travaillent n'ont même pas conscience de travailler pour la guerre.
Voilà, donc ça, c'est à 13h20. 14h20
Shotgun.
Shotgun. C'est du folk post-rock, ce sera le deuxième concert. 14h40. Alors là, on reviendra sur l'agriculture, mais enfin, comme on l'a dit, tout ça est lié. Hein, l'industrie liée à l'agriculture et liée à la guerre, c'est souvent un peu la même, souvent des procédés très proches. Donc on reviendra sur l'agriculture et notamment sur la chimie. On parlera pesticides, on parlera aussi artificialisation des sols, c'est-à-dire grosso modo, pour le dire vite, le bétonnage. Hein. Ce sera avec Régis et Cécile Auchard, 14h40.
Et à 15h40, nous avons un docu sonore qui s'appelle La Bombe. C'est la première partie et qui va traiter des témoignages de vétérans des essais nucléaires français. Mais en parallèle, on aura une performance puisque avec ce docu sonore sera projeté des images confectionnées par Nada et Julie en direct live.
Voilà, au rétroprojecteur.
Alors, le rétroprojecteur, c'est le petit appareil qu'il y avait avant dans les salles de classe. Ça n'existe plus.
Oh, on peut en voir à la fac. Hein, je crois qu'à l'université, il y en a encore. Voilà, donc ce sera. Alors ça, évidemment, c'est pour les gens qui sont à la chapelle, hein, la performance image live. On précise quand même que La Bombe, c'est un docu sonore de Charlotte Roux et Benoît Bory. Il sera en deux parties. Donc, première partie à 15h40, ce sera sur l'Algérie, consacré à l'Algérie. Ensuite, 16h10, retour sur un plateau, ce sera industrie et guerre, et sur la résistance à la guerre.
Alors, la résistance à la guerre, et on accueille quelqu'un qui fait partie, Rémi Serre, qui fait partie de l'association des anciens appelés d'Algérie, qui va nous expliquer la pratique qu'ils ont et comment ils travaillent contre la guerre par différentes choses.
Oui, parce que c'est l'association des anciens appelés d'Algérie contre la guerre. Il faut bien le préciser, hein, ce n'est pas des anciens combattants qui se retrouvent pour célébrer le joyeux temps de la guerre d'Algérie. 17h10, La Mine, Punk et Machine, c'est le troisième concert de la journée. 17h30, là, avec Mathieu de l'association Survie, qui est également un des animateurs de l'émission Décolonisons, un mardi par mois sur Canal Sud. On parlera des guerres coloniales. Tout ça, c'est évidemment dans le volet industrie et guerre.
Et à 18h15, deuxième débat mouvant. Si vous avez raté le premier, vraiment, revenez.
Voilà, 18h35, Infidèle Castra. Alors ça, c'est assez délirant. Ce sera encore un concert. Pédélectro Variétoche, hein, c'est le style qu'il assume. Voilà, ben, vous découvrirez ça tout à l'heure à 18h35.
Et puis à 18h55, Industrie et Ville, l'urbanisme. Donc l'urbanisme à Toulouse, qu'est-ce qui change, comment ça évolue, qu'est-ce que c'est qui est le nerf de l'urbanisme dans les grandes villes et en particulier dans notre magnifique ville qui était rose et qui devient de plus en plus bétonnée.
Oui, ce sera avec Jamal El Arche qui est de l'association ESMA et qui a fait pas mal de petits films, je crois, sur le sujet, hein, notamment. Voilà, ça c'est à 18h55, ce sera le dernier plateau de la journée. À 19h55, seconde partie de La Bombe, donc témoignage de vétérans des essais nucléaires français, toujours avec Nada et Julie aux images. Et la seconde partie sera consacrée évidemment à la Polynésie française.
Et à 20h15, eh bien, la canaille du midi que l'on ne présente plus, hein, puisque c'est la chorale révolutionnaire toulousaine, si je peux me permettre de m'exprimer de cette manière.
Voilà, ce sera pour clôturer la journée, hein, voilà, une longue journée. Il devrait être normalement, si tout va bien, à peu près 20h34. On aura tenu l'antenne pendant 10h17, on aura tenu la chapelle pendant 10h17. On vous attend là toute la journée.
Parce que si on a présenté les plateaux, on n'a pas parlé aussi du fait que eh bien, et vous pourrez aussi intervenir en direct à différents moments. Et voilà. Donc, pour se lancer, on va reprendre une chronique de travailleurs de la chimie.
Oui, alors juste pour dire qu'après on enchaînera donc avec un jeu, 11h, et puis à 11h15, on vous le dit, c'est industrie agriculture, ce que l'industrie fait au travail agricole. Premier plateau, c'est à suivre. Vous êtes sur Canal Sud.
Extrait de Putain d'usine de Jean-Pierre Levaret. Tous les jours pareil, j'arrive au boulot, même pas le travail, le boulot, et ça me tombe dessus, comme une vague de désespoir, comme un suicide, comme une petite mort. Comme la brûlure de la balle sur la tempe. Un travail trop connu, une salle de contrôle écrasée sous les néons, et des collègues que, certains jours, on n'a pas envie de retrouver. Même pas le courage de chercher un autre emploi. Trop tard. J'ai tenté jadis, j'aurais pu faire infirmier à l'HP, prof de lycée technique, et puis non. Manque de courage pour changer de vie. Ce travail ne m'a jamais satisfait. Pourtant, Je ne me vois plus apprendre à faire autre chose, d'autres gestes. On fait avec, mais on ne s'habitue pas. Je dis « on » et pas « je », parce que je ne suis pas seul à avoir cet état d'esprit. On en est tous là. On en arrive à souhaiter que la boîte ferme. Oui, qu'elle délocalise, qu'elle restructure, qu'elle augmente sa productivité, qu'elle baisse ses coûts fixes. Arrêtez, quoi. Qu'il n'y ait plus ce travail, qu'on soit libre. Libre, mais avec d'autres soucis. On sait que ça va arriver, on s'y attend. Comme pour le textile, les fonderies. Un jour, l'industrie chimique lourde n'aura plus le droit de citer en Europe. Personne ne parle de ce malaise qui touche les ouvriers qui ont dépassé la quarantaine et qui ne sont plus motivés par un travail trop longtemps effectué, trop longtemps subi. Qu'il a fallu garder parce qu'il y avait la crise, le chômage, et qu'il fallait se satisfaire d'avoir ce fameux emploi, garanti pour pouvoir continuer à consommer à défaut de vivre. Personne n'en parle. Pas porteur. Les syndicats le cachent, les patrons en profitent, les sociologues d'entreprise ne s'y intéressent pas. Les prolos ne sont pas vendeurs. On a remplacé l'équipe d'après-midi, bien heureuse de quitter l'atelier. C'est notre tour maintenant, pour 8 heures. On est installé dans le réfectoire, autour des tasses de café. Les cuillères tournent mollement. On a tous le même état d'esprit, et aussi, déjà, la fatigue devant cette nuit qui va être longue. Qui parlera de l'enfer salarial ? Non, pas obligatoirement pour la pénibilité, mais pour toute cette vie bouffée, une vie déjà trop petite, que le salariat grignote encore davantage.